débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, s'est ouverte à Munich la conférence sur la sécurité, surnommée le Davos de la sécurité internationale. Plus de 500 personnalités sont réunies et une grande question plane au-dessus des débats. Elle concerne cette question, l'avenir de l'OTAN, l'alliance transatlantique créée en 1949 et remise en cause par son plus gros contributeur, les États-Unis, le nouveau président Donald Trump, considérant en effet l'OTAN comme, je cite, obsolète. Alors est-ce que cela met en péril cette alliance militaire pourtant essentielle pour les Européens? C'est notre débat ce soir. Et pour en parler, nos deux invités en studio, Barbara Kunz, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Face à vous, Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à Sciences Po, chercheur associé à HEC. Alors je vais commencer par justement ce qui s'est passé aujourd'hui à Munich. La ministre allemande de la Défense qui a tenu à faire une mise au point après les propos de Donald Trump concernant justement l'OTAN. Elle a dit, bien que le ton vis-à-vis de l'Europe et de l'OTAN avait, je cite, un effet direct sur la cohésion de l'Europe et qu'une Union européenne stable était dans l'intérêt américain. Fin de citation. Barbara Kunz, est-ce que ce genre de déclaration peut permettre à nouveau d'assainir l'alliance transatlantique?
Bon, on peut en tout cas l'essayer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat qu'on vit aujourd'hui est un débat qui en fait est un vieux débat. Il n'a jamais été aussi, disons, les propos n'ont jamais été aussi pointus venant de Washington, mais les demandes américaines de plus d'implications européennes, où les Américains demandent assez régulièrement aux Européens de s'investir plus dans leur propre sécurité, tout ça, ça ne date pas de l'élection de Trump. Et donc, la ministre de la Défense allemande, elle a parfaitement raison que c'est aujourd'hui aux Européens de trouver une réponse à ces demandes américaines et que la cohésion européenne est absolument nécessaire dans ce contexte parce qu'aucun pays européen n'y arrivera tout seul.
Est-ce qu'effectivement l'Europe doit en faire plus au sein de l'OTAN? Justement, la ministre allemande de la Défense l'a dit aujourd'hui, Donald Trump bien sûr l'a dit au cours de sa campagne?
Alors, je pense personnellement qu'il est tout à fait évident que les Européens doivent faire plus. On dit qu'à peu près 75% des activités de l'OTAN sont financées par les Américains, qui ont de plus en plus de mal à expliquer ça à leurs contribuables, alors que l'Union Européenne, les États-Unis, enfin en termes de PIB, de population, etc., sont à peu près égales. Donc effectivement, la question se pose pourquoi les Européens se reposent autant sur les Américains pour garantir leur sécurité.
Florent Parmentier, la clé de l'équilibre aujourd'hui de l'OTAN, c'est l'engagement de l'Europe?
Oui, je pense qu'il faut tout d'abord observer que Donald Trump a énormément choqué les Européens dans sa campagne, à plusieurs reprises, en vantant les mérites du Brexit, en disant que voilà, on va faire de nouveau l'Angleterre à sa grandeur, etc. Donc il y avait tout un parallèle, en fait, lui-même se vivait un peu comme le Brexiteur américain, celui qui est capable de taper sur les élites de son propre pays, en attirant à cela, finalement, des catégories de population, des catégories d'électeurs qui n'allaient pas naturellement à lui. Ce que traduisaient les propos de la ministre allemande, Madame von der Leyen, c'était à la fois une inquiétude de vraiment voir effectivement pour la première fois les États-Unis se détacher et prendre un peu leur distance par rapport aux Européens, et une surprise parce qu'il y avait à la fois des déclarations anti-européennes, on en a parlé, mais aussi beaucoup plus compréhensives par rapport à la situation de Vladimir Poutine. C'est une manière pour lui, peut-être, Donald Trump, le temps politique de Donald Trump est celui d'un tweet de 140 signes. Par conséquent, voilà, on peut penser qu'il y a eu plusieurs occasions. En fait, il peut peut-être amener ses homologues européens à aller vers cette décision qu'il souhaite, d'une autre manière qu'ont fait les autres présidents américains, à savoir en choquant un petit peu. Ce faisant, il court un risque extraordinaire. C'est quand même le premier président américain qui a parlé effectivement d'obsolescence de l'OTAN, ce qui ne s'est pas vu auparavant, et ce qui suscite d'énormes oppositions, mais y compris à Washington.
Ça remet en cause aujourd'hui l'engagement américain au sein de l'OTAN?
Je pense qu'il y a un certain nombre de forces de rappel. Il y a les déclarations de Donald Trump qui sont parfois des déclarations intempestives faites pour combler l'opinion publique. Et il y a de l'autre un certain nombre de forces de rappel qui sont précisément les élites washingtoniennes. Et on peut prendre par exemple l'extrême dureté avec lesquelles ont été jugés Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, qui a dû quitter ses fonctions quand on a su qu'il avait des liens privilégiés avec Viktor Yanukovych. Ou plus récemment le la démission de Michael Flynn. On voit bien que dès que quelque chose d'un peu sulfureux touche, en tout cas proche de Donald Trump, touche la Russie, on voit bien que ça devient extrêmement toxique.
Et sur le sujet, qu'est-ce que peut dire Mike Pence, le vice-président américain, qui est attendu demain à la conférence sur la sécurité à Munich ?
Vraisemblablement, dans ce contexte-là, son travail est celui de rassurer ses homologues européens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas les rassurer ici, faire le service après-vente, de manière à pousser les Européens effectivement à être plus ambitieux dans leurs objectifs de défense. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas, en tout cas, de velléité sur certains sujets peut-être spécifiques de se rapprocher de la Russie.
Barbara Kuntz, il y a, comme le dit Florent Parmentier, est-ce que vous êtes d'accord, les déclarations d'un côté, la réalité de l'autre concernant l'OTAN aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'il y a effectivement des deux.
Donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter ?
Ben, je pense que peut-être pas sur le très court terme. Les Américains vont pas quitter l'Europe d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'effectivement, comme on vient de le dire, que à long terme, les Américains ne seront pas prêts à financer la sécurité européenne comme ils l'ont fait par le passé. D'autant plus que c'est quand on regarde un peu la carte mondiale des crises, on voit bien que c'est dans l'environnement européen que ça se passe mal aujourd'hui, que ce soit à l'est ou que ce soit dans le sud, alors que les États-Unis, je dirais pas qu'ils sont pas concernés par ces crises, mais ils le sont beaucoup moins que nous, Européens.
Mais justement, est-ce que l'OTAN aujourd'hui est adaptée à ces crises actuelles ? Est-ce que l'OTAN répond, justement, l'OTAN a été créée en 1949 pour faire face à la menace russe, est-ce que ce n'est pas un petit peu dépassé aujourd'hui, ce clivage ? Est-ce qu'aujourd'hui, la menace n'est pas ailleurs ? Je pense à la lutte contre le terrorisme, et Donald Trump l'avait cité.
Alors la lutte contre le terrorisme, effectivement, c'est un exemple où l'OTAN n'est pas pertinente. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'OTAN est obsolète. Quand vous regardez ce qui est au cœur de l'OTAN, c'est le fameux article 5 qui dit qu'une attaque contre un membre de l'Alliance est une attaque contre tous les alliés. C'est ce qui en ce moment rassure énormément les pays qui sont situés sur ce qu'on appelle le flanc Est de l'Alliance, c'est-à-dire les Pays-Baltes, la Pologne. Donc les pays qui ont effectivement peur de la Russie et puis qui ont de bonnes raisons d'avoir peur de la Russie. C'est là que joue vraiment aujourd'hui la force de l'OTAN, c'est que toutes les mesures que l'on met en œuvre pour rassurer ces pays, ou aussi une certaine démonstration de force vis-à-vis de Moscou. Alors on discute si c'est vraiment utile d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue politique et symbolique, c'est tout à fait utile. Donc on pourrait même dire que depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, en fait, l'Alliance Atlantique a vraiment retrouvé son sens premier.
Florent Parmentier, vous êtes d'accord ? Il faut rassurer finalement les pays de l'Est qui adhèrent à l'OTAN face à la menace russe ?
C'est une partie de l'explication. Mais effectivement, sur la question de savoir si l'OTAN est toujours pertinente, on peut malgré tout dire la chose suivante. D'abord, c'est que les défis auxquels font face les Occidentaux, si on accepte l'idée que les Occidentaux sont les États-Unis et l'Union européenne, cette alliance travaille dans un monde totalement nouveau. Et donc ça, c'est la première idée. Elle était extrêmement pertinente, effectivement, du temps soviétique. Elle le devient quand même un peu moins aujourd'hui. C'est là où je serais plutôt, un peu en contraste avec ce qui vient d'être dit avant, plutôt... contraint d'observer qu'il y a une part d'obsolescence programmée, en quelque sorte, comme nos produits, etc. Je pense que
que la menace russe, malgré tout, n'est pas aujourd'hui la première menace dans le monde.
C'est une des menaces, mais elle est interprétée différemment au sein de l'Union européenne.
La priorité de l'OTAN aujourd'hui doit être la lutte contre le terrorisme, c'est ça que vous voulez dire ?
Je pense que si on regarde le monde vu de Varsovie, il est normal de se dire que la Russie est la première source de puissance. Le ministre des Affaires étrangères polonais avait déclaré il y a quelques mois que ce qui comptait pour lui, c'est qu'il y avait des menaces existentielles, comme la Russie, qui peut faire disparaître des pays, et il y avait des menaces non existentielles, comme le terroriste fondamentaliste. Il y a là des points de divergence avec ce qu'on peut observer en Europe de l'Ouest, où aujourd'hui la France est beaucoup plus inquiète des problématiques de radicalisation de sa propre population, certaines franges très minoritaires de sa population, plutôt que de la Russie. Donc c'est là où on voit qu'au sein de l'Union européenne, et a fortiori au sein de l'Occident, il y a un certain nombre de divisions. Un monde concurrentiel dans lequel l'OTAN, bras armé de l'Occident, a effectivement aujourd'hui à faire face au terrorisme islamiste et en concurrence avec la Chine qui lance d'ambitieux projets. Le projet de nouvelle route de la soie qui est poussé par la Chine est un vrai projet alternatif à la mondialisation telle qu'on l'a vu dans les années 90. C'est un monde aussi où il y a énormément de relations contrariées. La Turquie, la Russie avaient dans les années 90 l'ambition de ressembler à l'Occident. Ils n'ont pas été, semble-t-il, aussi loin que ce qu'ils voulaient. Et puis c'est un monde, l'Occident, qui est en risque de dislocation. Mmh. À la fois parce que du côté, il y a des tensions du côté des États-Unis et de l'Union européenne, qu'on va voir là peut-être un peu s'estomper à cette occasion. Mais il y a aussi des risques internes au sein de l'Union européenne, de croyances dans l'Union européenne. Non seulement de risques de populisme dans les pays ouest européens et de populisme qui parfois ont pris le pouvoir en Europe centrale et orientale.
Barbara Kuhn, sur la lutte contre le terrorisme, la France réclame une politique de l'OTAN, de dissuasion, a-t-elle dit, à 360 degrés, aussi bien tournée vers l'Est que vers le Sud. La France fait référence à la Syrie, à la Libye. Comment est-ce que l'OTAN peut renforcer son arsenal de lutte contre le terrorisme?
Déjà, il faut que l'OTAN se mette d'accord entre tous ces pays membres, ce qui pose un grand problème, parce que comme on vient de l'entendre, les priorités au sein même de l'alliance sont relativement différentes. Et je pense que vraiment du point de vue de chaque capitale, ça se comprend, on comprend à chaque fois. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Alliance Atlantique aujourd'hui est mieux armée pour se consacrer à des menaces comme la menace russe. À l'Est, enfin, ce qui est perçu comme la menace russe par certains, pour faire très attention à la façon dont on s'exprime. Et tout ça, ce sont des activités, si je puis dire, qui sont très différentes de la lutte contre le terrorisme. Et la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, vous avez un vrai débat à l'intérieur de l'Alliance. Donc bon, il y a la dimension militaire, telle qu'on la connaît très bien en France, l'Alliance anti-Daesh qui est en cours, donc qui n'est pas une alliance, enfin, qui n'a rien à voir avec l'OTAN, mais qui regroupe quand même des pays membres de l'OTAN.
Est-ce que justement cette alliance, on pourrait imaginer qu'elle soit sous contrôle de l'OTAN ?
Alors, oui, théoriquement, c'est tout à fait envisageable. Après,
est-ce que l'impact serait plus fort ?
Je ne pense pas, personnellement, parce que de toute manière, ce seraient les mêmes pays qui seraient impliqués dedans. Donc, que ce soit à l'intérieur de l'Alliance ou en dehors, c'est pas ça. Après, vous avez aussi beaucoup de voix à l'intérieur de l'Union européenne. Qui disent que l'outil militaire tout simplement n'est pas suffisant. Et dès que vous avez une approche qui dépasse un peu le simple outil militaire, c'est là que vous avez la grande faiblesse de l'OTAN, qui est une alliance militaire. Donc dans ce sens-là, c'est pas une faiblesse, mais le modèle sur lequel opère l'OTAN, c'est de travailler avec des militaires et des moyens militaires.
Donc, Florent Parmentier, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme ou pour faire face à la menace russe, est-ce que le nerf de la guerre aujourd'hui, pour justement l'équilibre de l'Alliance transatlantique, c'est le financement de l'OTAN par les États membres, hors bien sûr les États-Unis ?
Il est vrai que de ce point de vue-là, un certain nombre d'États membres ont pu montrer... qu'ils avaient envie de faire des efforts. Je pense par exemple au livre blanc allemand qui a été développé l'an passé. On voit qu'il y a un certain nombre de volontés en fait de dépenser davantage en matière militaire. C'est également vrai si on regarde les programmes politiques des différents candidats à la présidentielle française. Donc oui, je crois que de ce point de vue-là, il y a une prise de conscience. Pour autant, est-ce que les dépenses effectuées sont efficaces ? C'est la première question. Et c'est une question, je pense, qui mérite d'être posée. Dans quel cadre elles le sont ? Elles le seront. Et ensuite, peut-être sur la question de l'efficacité de l'OTAN par rapport au terrorisme, il y a certainement des arguments qui vont dans ce sens-là, mais il faut aussi prendre en compte le fait suivant, c'est que Vladimir Poutine s'est positionné très clairement sur ce front antiterroriste dès septembre 2015 à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est là où il commence vraiment à dire qu'il va aller défendre l'armée syrienne, non pas parce qu'il est ami avec Bachar el-Assad, ce qui est parfois quelque chose de discutable sur certains points, mais véritablement parce qu'il y a une logique où l'État syrien doit tenir, sinon on aura affaire face à Daesh. Et pour que cet État syrien tienne, il faut non pas soutenir le président, mais soutenir l'armée syrienne. Et c'est là-dessus où, en quelques mois, la figure de Vladimir Poutine, qui était le tortionnaire du Donbass et l'escroc, entre guillemets, qui aurait volé la Crimée, est devenue une personnalité qui, dans la presse française, a été décrite avec beaucoup plus beaucoup moins de critiques, en tout cas ce qui veut bien dire voilà qu'il y a une partie de cette lutte contre le terrorisme qui a été préemptée par la partie russe. Pour autant, est-ce qu'il sera facile de travailler avec la Russie etc. sur le terrain?
Justement, est-ce que la proximité de certains dirigeants d'États membres de l'OTAN avec Vladimir Poutine, le président de la Russie, est-ce que cette proximité ne met pas en péril l'OTAN justement?
C'est pas évident. Je pense que l'OTAN est une institution malgré tout qui reste extrêmement solide sur ses fondamentaux. Il n'y a pas de plan de départ de certains pays européens de l'OTAN. On a eu l'élection au mois de novembre d'un président dit plutôt pro-russe en Bulgarie, mais il n'y a jamais été question que la Bulgarie sorte d'une quelconque manière que ce soit de l'OTAN, sachant que la Bulgarie a des rapports historiques à la Russie qui ne sont pas aussi compliqués, disons, que certains de ses voisins.
Barbara Kunz, quand certains observateurs affirment craindre un deal entre Poutine et Trump, quelles sont les menaces que cela engendrerait sur l'OTAN? Et est-ce que c'est possible, ce deal?
Bon, alors, toutes sortes de deals paraît possible. On ne sait pas trop avec le président Trump. Je pense honnêtement que les conséquences sur l'OTAN seraient plutôt indirectes et que les conséquences plus graves seraient en fait au niveau bilatéral entre certains pays européens et les États-Unis. Et pas forcément la France. Puisque ce deal, tel qu'on pourrait l'imaginer, il porterait sans doute sur la Crimée, l'Ukraine, la levée de sanctions sans que la Russie ne bouge sur l'Ukraine, ce qui déplaira sans doute aux Polonais, aux Baltes, etc., mais qui n'aura pas forcément de conséquences directes sur l'OTAN.
Ça ne remet pas en cause, selon vous, le socle fondamental, tel que vous l'avez dit, hein, de l'OTAN, qui est la faire face à la menace russe?
Je pense effectivement que ça mettra en cause bien plus que l'OTAN dans ce sens-là, puisque ça mettra vraiment en cause la communauté de valeurs occidentales dont on parle souvent et dont l'OTAN est en fait l'expression. Enfin, il y a d'abord eu cette communauté, ce lien occidental par les valeurs, la démocratie, à la limite aussi l'économie de marché. Et l'OTAN n'est venu qu'après. Donc, si vraiment on mettait en péril cette communauté des valeurs, forcément l'OTAN en souffrirait, mais bon, ça aurait des conséquences, mais oui.
Pas irréductible quant à l'avenir de l'Alliance transatlantique qui existe depuis 1949, quelque chose de pas insurmontable selon vous?
Ce ne serait plus la même OTAN. Ça, c'est sûr et certain. Après, de toute manière, il ne faut pas oublier non plus que dans cette réassurance des pays à l'est de l'OTAN, les États-Unis jouent aussi un rôle très important au niveau bilatéral. Donc, ça mettrait certainement en cause l'OTAN et la sécurité de ces pays de leur point de vue-là. Mais je pense honnêtement aussi que l'intérêt que portent, par exemple, l'Allemagne et la France comme grands pays européens et la Grande-Bretagne aussi à l'OTAN, les mènerait quand même à essayer de sauver les meubles.
Florent Parmentier, on va vers la conclusion de ce débat. Est-ce que la problématique aujourd'hui, finalement, c'est de savoir si il faut collaborer avec la Russie de Poutine ou rassurer les alliés de l'OTAN?
Il y a effectivement ça qui est en question à la conférence de Munich. Pour autant, il ne faut pas oublier que de bonnes relations interpersonnelles entre des présidents ne veut pas dire que les intérêts de long terme deviennent subitement cohérents. Et je pense que en ce qui concerne les alliances au Moyen-Orient, l'alliance, tout simplement, la Russie est proche de l'Iran, qui est un des ennemis déclarés de Donald Trump. Je pense qu'il y a un certain nombre d'alliances comme ça qui sont en question. Je pense qu'on a bien vu ces derniers jours que les États-Unis ne sont pas prêts non plus à sacrifier l'Ukraine de manière simple et directe. Donc je crois qu'il y a de la part de Vladimir Poutine, il y avait de la part de Vladimir Poutine, surtout une volonté que Hillary Clinton ne gagne pas. préférant sans doute Donald Trump, mais en étant probablement assez lucide sur le fait qu'il y a de part et d'autre un anti-américanisme russe et une russophobie américaine qui se complètent.
À suivre, bien sûr, sur RFI. Merci Florent Parmentier, maître de conférence à Sciences Po, chercheur associé à HEC. Merci à vous Barbara Kuntz, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Merci à Fabrice Viollet qui était à la réalisation de ce débat, à Eleanor Chronique qui l'a préparé. Restez à l'écoute dans 30 secondes, le retour de l'info sur RFI.